Chapitre 48. L'aurore bord ayant dépassé les îlots les plus proches du port, c'est selon une perspective inédite que Chris scrute le village qui s'étire dans son écrin de landes boisées. Ceux qui le menacent sont-ils en train de l'épier? Est-il dans leur ligne de mire? Vu de la mer, les falaises enserrant la baie ressemblent à de titanesques fortifications, érigées contre qui oserait s'en approcher. Comme des vigies à la vue perçante, les mouettes et les fous de bassin planent au-dessus. D'un signe de la main, Kate attire l'attention de Chris et lui indique les eaux moins sereines vers lesquelles il fende les flots. D'une voix assez forte pour couvrir le ronflement du moteur, elle l'avertit. « Si vous ne voulez pas avoir mal au cœur, vous devriez vous tourner vers l'avant. » Le conseil est pertinent, aussi bien sur leur embarcation pneumatique que dans la vie. Très vite, en effet, ils sont soulevés par des vagues de plus en plus impétueuses dans une ondulation croissante qui rappelle celle d'un manège de fête foraine. Chris sent aussitôt remonter une sensation datant de l'époque lointaine où, tout jeune, il pratiquait la voile, celle d'être le jouet d'une phénoménale puissance de la nature qui déjoue vos référentiels et avec laquelle vous n'avez pas d'autre choix que de composer. La première leçon de son instructeur d'alors résonne encore dans sa mémoire. N'oublie jamais que même si la mer est sous toi, elle aura toujours le dessus. Imperturbable, Kate tient la barre et file vers l'un des derniers grands îlots avant l'océan. Assez vaste, il est susceptible d'abriter ce qu'il cherche. La petite île n'est pas uniquement constituée de rocs et comporte une partie émergée dotée de suffisamment de relief pour réserver des surprises. Sur certains de ces plateaux, des arbres protégés par une première ceinture d'ajoncs ont même réussi à se développer. Cherchant un point d'accostage, Kate s'aperçoit qu'il en existe un, taillé dans la roche et pouvant convenir à leur hors-bord. Évitant les récifs, elle s'en approche en maîtrise et Chris saute sur le semblant de quai pour arrimer l'ancre grappin tandis que la jeune femme coupe le moteur. « Méfiez-vous des algues !» l'alerte-t-il. « Elles sont glissantes !» Il tend la main à Kate pour l'aider à débarquer. Elle la saisit et il s'engage sur le seul tracé praticable. La pente est raide, et les rochers environnants leur renvoient le roulement des vagues. En se retournant, Chris constate que les autres îlots masquent désormais Kilthorpe. Il en éprouve un indéniable soulagement qui se lit sur son visage. Le remarquant, Kate commente. « Vous supposez qu'en étant hors de vue, vous êtes hors d'atteinte ? J'aime à le croire. Méfiez-vous quand même. Ceux qui sévissent dans les parages ont prouvé leur inventivité. » Je ne les vois d'ailleurs pas se contenter d'un simple tir longue portée qui déclencherait immédiatement l'ouverture d'une nouvelle enquête. Ce sont pourtant les propres mots du type qui m'a collé sa lame sur la gorge. Vous êtes en permanence dans notre viseur. J'y vois surtout une formule choc pour vous impressionner. Elle le jauge. Vous avez peur? Je suis trop en colère pour ça. Le point qui m'obsède, c'est leur nombre. Je paierais cher pour savoir combien ils sont. L'information serait précieuse, effectivement. Mais, quoi qu'il en soit, leur meneur ne peut être qu'un propriétaire, et c'est sur ce champ d'investigation que nous devons nous concentrer. Ils atteignent un premier plateau. Une végétation sauvage composée d'ajoncs, de bruyères, d'arbustes et de hautes touffes de chardon a envahi le sentier jusqu'à embrouiller la trace. Personne ne s'aventure ici, pas même les moutons, qui non seulement ne sont pas dignes de confiance, mais qui de surcroît ne sont pas fichus de ramer pour traverser. Progressant parmi l'enchevêtrement agrémenté çà et là d'épines, Kate et Chris sont obligés de se protéger le visage de leurs bras. Chris recrache ce qui vient de s'introduire dans sa bouche, sans savoir si ça volait ou rampait. « Maintenant que vous en savez autant que moi, dit-il, en vérifiant que Kate s'en sort derrière lui. Votre classement des suspects s'en trouve-t-il modifié ? James Murray et Alexander Reed étaient déjà sur le podium. Je me méfie aussi de Shona Brennan. » Sous ses airs de gentil tatagato, je soupçonne un tempérament qui pourrait se révéler redoutable. En récupérant sa queue de cheval prise dans une ronce, elle ajoute « La courtoisie très commerçante de Ferguson ne m'inspire pas totalement confiance non plus. Il est assez malin pour tirer les ficelles. Hier, lorsque je suis passé lui acheter le matelas et le duvet, il s'est permis une remarque comme quoi ces derniers temps, j'avais davantage l'air de m'intéresser aux habitants qu'aux animaux. Votre couverture s'effiloche. » Elle est carrément bouffée au mythe. Que pensez-vous de Benton, de l'atelier nautique? Je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler. Toujours tapis au fond de son local à surveiller ce qui se passe. Il ne dit rien, mais je crois qu'il en pense beaucoup. Vous suspectez donc vraiment tout le monde. La cupidité et les rancœurs font d'excellents mobiles qu'ils ont tous en commun. Avouez d'ailleurs qu'aucun ne donne l'impression de jouer franc jeu. Je rangerai Thornton et Kirsty Scottson à part. Handford aussi, d'ailleurs. Vous les avez côtoyés plus que moi. Je vais me fier à votre jugement, même si je me demande si votre côté sentimental ne pourrait pas vous aveugler. Mon côté sentimental, s'étrangle Chris. Ne jouez pas les effarouchés, vous êtes un affectif, inutile de le nier. Ce n'est pas si grave. Vous sous-entendez que cela pourrait fausser mon jugement? Je vous rappelle que j'ai coincé celle qui allait devenir ma femme. Si j'étais aussi sentimental que vous le prétendez, elle aurait continué à me balader. Si vous le dites. À travers les taillis qu'ils sont en train de traverser en contournant la partie la plus escarpée de l'îlot par le nord, le versant exposé au large se distingue déjà. À présent, les arbres leur offrent un peu de répit en réduisant la densité des buissons. Il ne leur faut pas longtemps pour déboucher face à l'immensité de l'océan. À mesure qu'elle s'ouvre, la vue se révèle saisissante. Les rochers se dressent plus acérés et disloqués que sur le littoral, semblables aux coups de pinceau enragés d'un peintre tourmenté. Les vagues moutonnantes se succèdent sans relâche pour venir s'y briser. Dans la clarté venteuse qui l'oblige à plisser les yeux, Kate ne tarde pas à repérer la chapelle, dont la croix pointe au-dessus d'une barrière d'ajoncs. Elle se dirige vers elle, aussitôt imitée par son complice. La modeste construction, un parfait modèle réduit d'église, se dresse sur une langue rocheuse orientée au sud-ouest. Kate s'interroge à voix haute. Pourquoi sont-ils venus construire un édifice religieux ici, alors qu'il n'y en a même pas au village? La foi n'avait peut-être plus sa place à terre après ce qu'ils avaient enduré. Le tandem s'approche. Ce n'est pas une porte qui protège l'entrée, mais un mur-écran disposé en chicane. Kate s'y faufile pendant que Chris entame le tour de l'édifice, ce qui ne lui prend pas longtemps étant donné sa petite taille. Lorsqu'il rejoint Kate, il la trouve dubitative. Écartant les bras, elle embrasse l'espace intégralement vide. Ni hôtel, ni stèle, pas même d'ex-voto, contrairement à ce que voudrait la tradition marine en bord de mer. Aucun symbole, aucune sculpture religieuse n'orne les murs parfaitement lisses. À ce niveau-là, lâche la jeune femme, ce n'est plus de la sobriété. Pourtant, l'extérieur est soigné. Ils se sont clairement donné du mal pour que cet édifice ait de l'allure. Tournant sur lui-même, pour tenter de comprendre le contraste entre l'emballage et son absence de contenu, il commente. Pourquoi concentrer leurs efforts uniquement sur ce qui se voit depuis le large? Reniard s'attarde sur les ouvertures dans les murs, qui n'ont pas seulement la taille de meurtrière, mais également la découpe particulière en biseau. Aucun vitrail ne les équipe. Ce ne sont que de simples fentes. Deux d'entre elles donnent sur l'entrée du chenal qui mène au port, et les deux autres sont orientées vers le nord. Il ressent un instant afin de s'assurer d'un point, puis revient en affirmant « Ça ne ressemble pas à une chapelle, parce que ce n'en est pas une. Nous avons affaire à un poste de surveillance déguisé en chapelle. Cet endroit permet de contrôler qui s'engage dans la baie sans éveiller l'attention des bateaux qui ne font que passer. De l'autre côté, si on ne tient pas compte de la végétation qui ne devait pas exister à l'époque, on a une vue en droite ligne sur le promontoire du phare. » Kate vérifie sa théorie par elle-même, fermant chaque fois un œil pour mieux voir. Ils pouvaient donc surveiller et guider les bateaux en approche, et faire signe à leurs comparses du village. Chris lui montre la base d'une des meurtrières qui présente une ouverture ronde. Mieux que ça, regardez. La place devait également être équipée d'un canon. Les traces d'usure au sol attestent de la présence d'un support. De quoi envoyer une bonne bénédiction, ironise Kate. Voilà qui éclaire le port d'un jour nouveau. L'anse était sécurisée. Observant à son tour l'entrée du chenal par une meurtrière, Chris imagine les grands navires qui s'avancent, obligés de s'identifier sous peine de se faire trouer la coque. Cette construction n'est citée que dans un seul témoignage? Un seul, confirme Kate. Il est aussi question d'une tombe. Vous dites qu'un des infortunés accidentés s'était renseigné à leur sujet? Tout juste. Qui avait fait cette déposition? Je n'arrive pas à m'en souvenir. J'en ai lu tellement. Puis, indiquant la sortie, elle ajoute « Venez, je voudrais bien trouver la sépulture avant que le crépuscule ne nous oblige à rentrer. » C'est en lisière du petit bois adossé au relief qu'il la découvre, toute proche de la fausse chapelle. Une stèle, au sommet arrondi, ancienne mais en assez bon état. Les embruns auxquels elle est davantage exposée peuvent-ils expliquer qu'elle ne soit pas envahie de lichen? Même si lire ce qui y est gravé n'est pas évident, cela reste possible. Aucun nom, ni date, mais une citation. « Celui qui n'aura pas de terre pourra toujours habiter mon cœur. » Kate et Chris échangent un regard. « C'est tiré de la Bible ?» demande-t-elle. Bah, « Je suis loin d'être incollable sur le sujet, mais je ne crois pas. » Quelques mots dans une autre langue sont écrits en plus petit au-dessous. « Paz a tu alma. » « Ça, je sais, » déclare Kate, « c'est de l'espagnol. » Et ça veut dire « paix à ton âme. » Elle désigne les restes séchés d'un bouquet de bruyère calé sous un galet. Quelqu'un est venu fleurir cette tombe-là aussi. Ils songent aux fleurs fraîches trouvées dans les catacombes de la falaise. « Vous ne vous souvenez vraiment plus de qui en fait mention dans son témoignage ?» insiste Reignard. Kate hésite. « À force d'y réfléchir, il me semble que c'est Rod Mallory, l'intendant de Hanford Manor. »